Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, nous sommes vendredi dans 30 minutes, la libre antenne, vous connaissez le principe, vous commentez l'actualité de votre choix et parmi les sujets qui suscitent le plus de réactions au standard et sur nos réseaux sociaux, il y a incontestablement les résultats contestés de l'élection présidentielle en Guinée, donnant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour, des réactions également après le massacre de 7 enfants dans une école au Cameroun, les appels au boycott des produits français lancé dans plusieurs pays musulmans, c'est également un sujet sur lequel vous souhaitez réagir. On vous donnera la parole. Plusieurs d'entre vous souhaitent revenir sur l'avenir de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est vrai que de plus en plus de voix appellent au divorce entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. On parlera, j'espère qu'on aura le temps de rappeler cet auditeur de New York. Il nous envoyait un petit message. Il fait partie des 80 millions d'électeurs qui ont déjà voté. Donc on parlera avec lui tout à l'heure. Voilà un aperçu de ce qui vous attend, de ce qui nous attend en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. Des questions après le naufrage qui a fait au moins 140 morts au large des côtes sénégalaises. À bord, il y avait 200 migrants. 140 morts, c'est le bilan dressé hier par l'Organisation internationale des migrations. Bonjour Hassan.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal justement. Nous vous écoutons.
On constate qu'il y a plus en plus de pirogues interceptées au large des côtes sénégalaises. Le président Macky Sall a déclaré vouloir prendre des mesures. À ce propos, j'ai deux questions, Juan. Que comptent faire les autorités sénégalaises pour mettre fin à ces drames?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question, d'autant qu'après ce naufrage, ce drame, de nombreuses réactions circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des débats qui sont organisés au Sénégal, à la radio, à la télévision, de nombreuses réactions de la classe politique. Bonjour Théa Olivier.
Oui, bonjour Juan, bonjour Hassan.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Dakar. Que comptent faire les autorités pour mettre fin à ces drames?
Alors déjà, deux jours après l'accident, le président Macky Sall avait d'abord présenté publiquement ses condoléances aux familles des victimes, à qui il avait promis toutes les dispositions pour les aider à surmonter cette dure épreuve. Quelques jours plus tard, le chef de l'État a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de l'ordre pour préserver la vie des jeunes tentés par l'immigration. Et enfin, au Conseil des ministres, il y a quelques jours, mercredi dernier, Macky Sall a incité les services compétents à accompagner les jeunes afin de freiner ce phénomène de migration. Par exemple, l'une des solutions, ce serait de pousser les jeunes à entreprendre, notamment via la DER, la Direction Générale à l'Entrepreneuriat Rapide. Et le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a aussi été chargé de renforcer les programmes d'accompagnement. Au total, la construction de 45 centres départementaux de formation et aussi un réseau de maisons de la jeunesse vont être accélérés pour répondre à l'urgence de la situation. Mais aussi, le ministre de l'Intérieur, Alingou Ndiaye, a rappelé que l'arsenal juridique prévoit de lourdes sanctions contre les passeurs qui risquent jusqu'à 10 ans de prison, sans compter bien sûr les sanctions pécuniaires.
Ah oui, d'ailleurs, après ce naufrage, le gouvernement a fait état de 28 présumés convoyeurs interpellés. Je vous ai un peu interrompu, Hassan, je vous ai un peu coupé la parole, vous aviez une autre question.
Oui, pourquoi ces migrants sénégalais font-ils le choix de la route des Canaries, réputée très dangereuse?
Route effectivement dangereuse, périlleuse. Pour ceux qui n'ont pas la carte en tête, faut savoir qu'entre les côtes sénégalaises et l'archipel espagnol des Canaries, il y a tout de même 1000 kilomètres la traversée périlleuse. Théa, que peut-on répondre? Comment expliquer que cette route soit de nouveau empruntée par les migrants?
Alors c'est vrai déjà qu'il faut faire l'état qu'il y a une recrudescence de départ par voie maritime, c'est ce que constate le gouvernement sénégalais. Par exemple, en termes de chiffres, entre le 7 et le 25 octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la Guardia Civile espagnole, a intercepté 5 pirogues en partance pour l'Europe, secourant au total 388 personnes. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, confirme cette tendance à la hausse ces dernières semaines. Rien que pour le mois de septembre, 14 bateaux ont quitté le Sénégal pour rejoindre les Canaries, qui est une porte d'entrée vers l'Union européenne, qui est située au large du Maroc. Il serait environ 11 000 migrants à avoir atteint l'archipel espagnol cette année, contre seulement 2 500 sur la même période l'année dernière. Et le nombre de morts a doublé depuis 2019, toujours selon l'OIM. Ouais. Et donc, en effet, le quart de ces bateaux, souvent, ont connu des dommages ou un naufrage. Donc, cette route est bien dangereuse, mais elle est davantage empruntée parce que les frontières terrestres sont fermées à cause de la pandémie de coronavirus. Et aussi, la route via l'Espagne, donc, ou via les Canaries, connaît aussi un regain depuis quelques années parce que la route par la Libye est devenue trop difficile et trop dangereuse.
Ouais. En quelques mots, Théa Olivier, ça ne faisait pas partie des questions posées par Hassan. Il est sur place, donc évidemment, lui a la réponse. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, comment peut-on expliquer depuis quelques mois l'augmentation de ces départs de jeunes Sénégalais?
Alors, du côté de l'opposition politique, on dénonce l'échec de la politique de jeunesse et d'emploi mise en place par l'État. C'est vrai que Macky Sall avait promis de créer 500 000 emplois par an, mais le chômage reste élevé dans le pays, surtout chez les jeunes. Donc, sans emploi et sans perspective, beaucoup choisissent cette voie risquée. Mais il faut dire aussi que le Sénégal subit de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, qui a mis à l'arrêt le secteur du tourisme, qui représente 10% du PIB. Et les revenus issus de la pêche commencent aussi à se tarir avec la diminution des ressources halieutiques disponibles. Mais les jeunes partent aussi car ils subissent une pression au niveau de la société. Ces départs clandestins continueront tant que les jeunes penseront que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, comme leur font croire les quelques amis qui ont réussi les mois passés.
Allez, Hassan, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup Théa.
Théa Olivier, l'une des correspondantes de RFI à Dakar. Vous êtes au Sénégal, vous souhaitez réagir à ce naufrage, le naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année. C'est ce qu'a indiqué hier l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations. Vous nous appelez, la Libre Antenne, ce sera dans 20 minutes. Agnès Rougier du service France de RFI me rejoint. Bonjour Agnès.
Bonjour Anne.
On a reçu des questions concernant le reconfinement de la France, reconfinement national depuis ce vendredi minuit. Saïd, soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons avec Agnès Rougier.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI à travers le monde. Juan.
Oui.
Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un nouveau confinement pour stopper la propagation du Covid-19 qui augmente depuis septembre. À cet effet, ma question est de savoir comment expliquer la montée en puissance de cette deuxième vague en France. Et est-ce qu'elle aurait pu être évitée?
Ah, Agnès Rougier, c'est vrai que les chiffres des contaminations, des hospitalisations, des décès dus au coronavirus sont mauvais. Les hôpitaux disent qu'ils sont déjà quasiment submergés. Pour commencer, d'abord, est-ce qu'on a tiré les enseignements de la première vague?
Oui, bonjour Saïd. Oui, alors cette première vague de pandémie au printemps dernier, en fait, elle a pris tout le monde par surprise. Quand on observe les courbes, on comprend beaucoup de choses. Déjà, sur le plan mondial, on voit que les gens contaminés par le Covid en février commencent à décéder à partir de mars. Et la courbe de mortalité décolle brutalement à partir du 15 mars. Puis alors après, elle grimpe sans s'arrêter jusqu'à maintenant. À partir de la mi-mars, les courbes de nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation, des décès quotidiens deviennent exponentielles. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de cas double tous les jours. Ensuite, ces courbes forment un plateau, pardon, puis commencent à décroître plus ou moins lentement en fonction des mesures de confinement qui ont été prises. Alors en France, le confinement a débuté le 17 mars, il a commencé à faire effet à partir du mi-avril, et à partir du début mai, là, les courbes s'inversent, c'est-à-dire qu'elles
montrent... Donc il a fallu attendre un mois et demi tout de même.
C'est ça, hein. Oui, le temps... C'est le temps de l'incubation, et ensuite, on sait aussi que la maladie peut s'aggraver brutalement au bout de 3 semaines. Donc voilà, il y a un temps de latence, ensuite, post-déconfinement, de mi-juillet à mi-août, les courbes sont stabilisées à bas niveau, mais à ce moment-là, c'est les vacances, on circule, on se réunit, et à partir de mi-août, on voit très clairement que les courbes commencent à monter doucement, les hospitalisations augmentent, mais alors à la mi-septembre, en fait, les courbes de décès décollent, toujours le même temps de latence, et le 10 octobre, brutalement, tous les chiffres s'envolent. En France, en Europe, ces courbes montrent que la pandémie échappe aujourd'hui à tout contrôle. Le 28 octobre, on annonçait 1 174 000 décès et plus de 44 millions de personnes testées positives au Covid.
Ouais. Est-ce qu'on aurait pu anticiper tout cela? Est-ce qu'on aurait pu empêcher la recrudescence du nombre de cas, pour répondre à Saïd?
Alors pour Pascal Legendre, qui est directeur de recherche à l'INSERM, aujourd'hui les gestes barrières scrupuleusement suivis sont la seule protection individuelle efficace. Au plan général, la solution du confinement ne peut que retarder les vagues épidémiques, à moins qu'il ne soit maintenu de façon très stricte et assez longtemps dans les régions très infectées. En Chine, semble-t-il, c'est ce qui s'est passé. Mais en France, en fait, c'est trop tard pour cibler des régions particulières. Contrairement à la première vague, tout le territoire est aujourd'hui touché. En fait, pour qu'elle soit efficace, le confinement aurait dû s'imposer dès le début de l'augmentation du nombre de cas. Et d'après les courbes, au moins donc 2 à 3 semaines avant l'apparition d'un pic théorique qui correspond en fait au temps d'incubation moyen multiplié par 3. Aujourd'hui, tout est proche des limites, en tout cas en termes d'hospitalisation et de réanimation.
Vous aviez une autre question, Saïd ?
Oui, oui. Peut-on imaginer que les Français ne respectent pas ce reconfinement et manifestent leur opposition comme cela s'est vu récemment dans d'autres pays comme en Italie?
Oui, c'est vrai qu'en Italie, les manifestations se multiplient de jour en jour pour dire non au reconfinement, non à la fermeture des restaurants, des bars, des piscines, des cinémas, etc. Est-ce que ce mouvement de contestation peut gagner la France?
Alors, il y a eu quelques appels à manifester, mais enfin, ça reste assez ténu. On est vraiment très loin des États-Unis. Le 29 octobre, un sondage Odoxa pour le Figaro montrait que les Français sont majoritairement d'accord avec le reconfinement. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux, mais ça reste minoritaire, c'est plutôt d'extrême droite, et puis les leaders d'opinion n'appellent pas à manifester. Donc pour l'instant, c'est sans grand succès.
Oui, vous parliez d'un sondage publié fin septembre, j'ai sous les yeux un sondage publié hier.
Non, c'est celui-là, c'est le sondage Odoxa, 29 octobre, j'ai dit septembre.
Ah oui, septembre.
Désolé,
ah,
bah,
non,
c'est
mais
octobre.
D'accord. Octobre, oui,
mais
d'accord.
Mais c'est celui-là, c'est voilà. Le sondage Odoxa pour le Figaro,
mais
désolé.
Qui correspondait aux chiffres que vous donniez.
Et pour cause.
Donc voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Agnès Rougier. Saïd, on a répondu à vos questions.
Oui, tout à fait. Et c'est entièrement satisfait.
Eh bien, tant mieux. Appelez-nous quand vous le souhaitez. Bonne journée à Conakry. Agnès Rougier, à bientôt.
À bientôt, Juan.
9h22 ici à Paris. 33 9 693 693 70. Yabao, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Merci de nous appeler de Bobo-Dioulasso. C'est au Burkina Faso. Vous avez des questions concernant la colère des aborigènes en Australie?
Yes.
Yes, eh bien allez-y, on vous écoute.
En Australie, l'abattage d'un arbre sacré a provoqué mardi la colère des populations aborigènes.
Oui.
Cette calvitie se trouvait sur le trajet d'un projet d'autoroute contre lequel luttaient des centaines de militants depuis 2 ans. Comment expliquer que cet arbre ait finalement été abattu malgré la forte opposition des populations?
Oui, un arbre sacré, vieux de 350 ans. Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service international de RFI, cet arbre a été coupé pour permettre la construction d'une autoroute. Il y a quand même du cynisme dans la réaction des autorités australiennes puisqu'elles ont profité finalement du confinement pour couper cet arbre.
Exactement, beaucoup de cynisme parce que ces arbres se trouvent dans l'état du Victoria, dans le sud-est de l'Australie, c'est la région de Melbourne, et vous avez peut-être entendu sur RFI que pour lutter contre une résurgence du coronavirus, Melbourne et ses environs ont été complètement bouclés pendant plus de 3 mois, ce qui signifie que les militants de la cause aborigène qui protégeaient ces arbres depuis des années n'étaient plus là, ou en très petit nombre en raison de ces mesures sanitaires. Donc la police et les gardes forestiers chargés d'abattre ces eucalyptus ont dû se dire « allons-y, on a enfin une occasion ». Il se trouve que ce calcul était à moitié faux parce qu'il y avait tout de même du monde quand les bulldozers sont arrivés. Le mot a couru très vite dans la communauté militante et on a compté finalement à peu près une centaine d'arrestations. Des gens qui se sont précipités pour faire rempart de leur corps, pour éviter que l'on s'en prenne à ces arbres sacrés, Juan, mais ça n'a pas suffi.
Ouais. Les aborigènes, eux disent, eux dénoncent une violation de leur héritage. Le gouvernement dit être au contraire dans son droit. Qui a raison? Qui a tort?
Alors, c'est une question compliquée, mais chacun campe sur ses positions. Les Djaburung, donc qui sont cette peuplade aborigène qui réside dans la région de Melbourne depuis sans doute des millénaires, les Djaburung sont abasourdis, ils sont surtout très tristes parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été floués une fois de plus, que leur histoire, que leur patrimoine ne sont pas respectés, parce qu'on parle effectivement d'un eucalyptus vieux de 350 ans, planté par leurs ancêtres. C'est ce qu'on appelle un arbre de direction. C'est un arbre planté à la naissance des enfants qui servait de guide spirituel. Quand vous aviez des doutes, si vous vous posiez des questions existentielles, Juan par exemple, le sens de votre vie, si vous aviez une décision très importante à prendre, vous vous rendiez auprès de votre arbre qui vous indiquait la bonne direction à prendre. C'est ça la croyance très ancienne des Djaburung, et le fait de détruire cet arbre résonne chez eux comme si on détruisait leur croyance ancestrale, tout simplement.
Donc chacun d'entre eux oui. Dispose d'un arbre de direction, si je vous comprends bien.
En tout cas, ça a été comme ça pendant des millénaires. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais les arbres les plus anciens, ils y sont toujours. toujours très attachés. En face, il y a le gouvernement qui veut aménager l'autoroute. Il y a une grande autoroute qui court entre les villes de Melbourne et d'Adélaïde. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette autoroute. Et pour améliorer la sécurité routière, l'État du Victoria veut créer un nouvel embranchement. En gros, c'est une route parallèle à celle qui existe déjà, ce qui permettrait d'avoir plus de place pour circuler et théoriquement moins de dangers. C'est un projet à 157 millions de dollars qui a entraîné donc l'abattage de cet arbre. Mais ce que disent les autorités, c'est qu'elles n'ont pas fait ça par hasard, qu'une liste d'arbres protégés a été mise au point avec les communautés locales, avec les aborigènes, et que cet arbre en particulier n'y figurait pas. Donc, le gouvernement du Victoria se défend de tout passage en force, on les sent d'ailleurs gênés, mais ils tiennent bon parce qu'ils estiment avoir respecté les règles. Le problème, c'est que même si cet arbre en particulier n'était pas sur la liste, encore une fois, avec les communautés aborigènes, c'est le symbole qui fait des dégâts.
Oui, Yabao, je crois que vous avez une autre question à poser à Vincent Souriau.
Oui, et plus généralement, qu'est-ce que cela se dit des relations entre aborigènes et l'État australien?
Ah, bonne question, effectivement. On peut peut-être dresser, mais alors rapidement, hein, Vincent, on n'a que 3 minutes devant nous, mais on peut dresser un état des lieux de la préservation du patrimoine aborigène?
Alors c'est effectivement très intéressant et très complexe, il y aurait beaucoup de choses à dire. Si on ne parle, Juan, comme vous le dites, que du patrimoine, sa préservation n'est pas garantie. Et on en a eu un autre exemple assez récent, cette fois ça s'est passé dans l'ouest de l'Australie, quand une énorme entreprise minière a dynamité des grottes préhistoriques, qui étaient en réalité l'un des plus anciens sites aborigènes. La société s'appelle Rio Tinto, elle a fait tout sauter à l'explosif pour agrandir une mine de fer, alors qu'on avait trouvé dans ces grottes, par exemple, un os de kangourou affûté par des aborigènes il y a 30 000 ans ou une tresse de cheveux vieille de 4 000 ans et pas n'importe quelle tresse de cheveux parce que on s'est aperçu que l'ADN de cette tresse de cheveux montrait un lien génétique avec l'ADN des indigènes qui vivent encore aujourd'hui dans la région. Mmh. Sur le papier, donc, le gouvernement australien affiche aujourd'hui un respect total de l'identité aborigène, mais dans les faits, quand des concessions comme celle-ci, des concessions minières par exemple, sont accordées à des sociétés pour détruire des sites qui sont clairement identifiés comme sacrés, c'est la preuve, Juan, qu'il y a toujours de graves problèmes de reconnaissance et de préservation.
Oui, on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits, hein, de la part de toute la nation australienne à l'endroit des aborigènes. Ils restent tout de même aujourd'hui discriminés. Ils sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, ils sont pauvres, ils sont peu éduqués.
Exactement, c'est ce que prouve un rapport annuel qui s'appelle « Closing the Gap » en anglais, ce qui signifie « réduire l'écart ». Et cet écart, c'est l'écart qui existe entre les Australiens et les descendants d'aborigènes. Ces rapports annuels qui sont publiés par le Parlement et qui sont présentés par le Premier ministre en personne, hein, ce qui est censé incarner l'importance des relations entre la nation australienne et ses aborigènes, ces rapports montrent que les aborigènes sont toujours discriminés, qu'ils vivent en grande majorité sous le seuil de pauvreté, que leurs enfants ne sont pas assez éduqués et que finalement les aides sociales qui sont mises en place par le gouvernement australien, malheureusement, ne suffisent toujours pas à réduire cet écart.
Ouais. C'était passionnant, Vincent Souriau, et je peux vous dire qu'Agnès Rougier est restée dans ce studio, elle vous a écouté religieusement. Yabao, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, je suis satisfait, mais je voulais encourager l'équipe technique.
Eh bien, vous avez bien raison d'encourager Arès, Benoît et Quentin. Ils sont très fiers, hein, d'ailleurs, de ce soutien et de ces encouragements, Yabao. Bonne journée à Bobo Dioulasso. Merci infiniment, Vincent Souriau. J'accueille, juste pour m'excuser de vive voix, bonjour Claude.
Bonjour, je n'en doutais pas que je devais passer à l'antenne.
Bah oui, vous deviez passer à l'antenne, vous savez quoi, il nous reste 1 minute. Ce serait dommage de bâcler les réponses, d'autant que vos questions sont très intéressantes. Vous avez entendu sur RFI que les Chiliens avaient majoritairement voté en faveur d'une nouvelle constitution, puisque la constitution actuelle au Chili date de la dictature Pinochet. C'est dire s'il faut peut-être nettoyer ce texte, et donc il va y avoir une nouvelle constitution. Vous aviez envie de poser des questions, et bien vous savez quoi, Claude, je prends l'engagement, on vous rappelle la semaine prochaine, lundi même, on me dit lundi. Ça vous va lundi matin?
Non, pas de problème, je sais que tous les sujets étaient importants. Donc
Ben voilà, et puis certains confrères sont un peu plus bavards que d'autres, donc voilà. Claude, merci en tout cas de votre compréhension, et c'est promis, on vous rappelle donc lundi matin, on parlera du Chili. Sachez que la semaine prochaine, on sera à l'heure américaine, hein. Vous savez qu'il y a l'élection présidentielle mardi, donc mardi, vous pourrez nous poser vos questions pour mieux comprendre les enjeux de cette élection, le processus électoral américain qui est particulièrement complexe. Vous pourrez nous interroger interrogé sur le bilan de Donald Trump, ses échecs, ses réussites. D'ailleurs, vous-même, vous pourrez nous dire ce que vous retiendrez des 4 années de Donald Trump à la Maison Blanche. Et puis, mercredi, si tout va bien, à cette heure-ci, on connaîtra les résultats. Donc, vous pourrez évidemment les commenter. On marque une pause et on revient dans 10 minutes.